19h passées sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de Jusqu'à Nouvel Ordre.
Dès lundi et jusqu'à Nouvel Ordre.
Quel silence, hein.
Il veut nous guérir du coronavirus à travers l'écran.
On n'a pas de virus, il n'y a rien du tout pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, comme les grippes, comme d'habitude, rien. Voilà.
Ça va?
Oui, très bien.
Petit coup de coude, même à distance maintenant.
Moi, je suis plutôt namasté, moi. Ça va
alors?
J'ai donc décidé, jusqu'à Nouvel Ordre.
Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement.
Aujourd'hui, on sait très bien que la situation sanitaire, elle est grave.
À partir de ce lundi, jusqu'à Nouvel Ordre.
Jusqu'à Nouvel Ordre, le journal de bord et des débordements des bénévoles de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi à 19h.
Que ce deuxième confinement ait été un vrai confinement ou un faux confinement, pour ceux comme moi qui ont télétravaillé 100% du temps, ça n'a pas changé grand-chose. Le résultat est le même. On reste chez soi et on se la ferme. On a mal aux yeux, on se tient mal sur sa chaise. On s'ennuie, il fait chaud et puis il fait froid. Alors on se lève un peu, puis on trottine, mais il y a ce sentiment de se tuer à pas faire grand-chose. Puis quand on se remet au travail, on a l'impression d'être un peu espionné au travers de l'ordinateur, mais c'est un espionnage silencieux, on ne se rend compte de rien. Alors on reste des heures seul devant son PC, à répondre à des collègues devenus virtuels. On tapote des documents Excel sans enthousiasme, on forward sans ardeur un énième mail qui se trompe de destinataire. La vie sociale a rarement été un tel calvaire. Au-delà du contact familial, elle est réduite à néant. Et c'est là qu'on se rend compte que quoi qu'on en dise, c'est important d'avoir du contact avec ses collègues. Parce qu'une vie professionnelle au travers de réunions d'équipe et de cafés virtuels, c'est pas le top.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Ce soir, dans Jusqu'à Nouvel Ordre, un grand sujet sur la mobilisation climatique, afin de savoir si elle va mener, in fine, vers un droit climatique. C'est Nathie Sauvé de la rédaction de Radio Campus Paris qui va recevoir Théophile Keïta et Yann Robieu-Dupont de l'association Notre Affaire à Tous. Juste avant ça, on aura un billet d'humeur de Nicolas qui nous dit une fois de plus à quel point c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Puis ensuite, on aura des chroniques, une chronique de Mathilde sur Michael Flynn qui a été gracié par Trump et une chronique en duo de Chloé et Mathis sur The Queen's Gambit, une série Netflix. Vous êtes sur le 93.9. Merci d'écouter Jusqu'à Nouvel Ordre.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
On commence tout de suite avec un billet d'humeur de Nicolas qui nous montre à quel point c'est décourageant d'avoir 20 ans en 2020 et qui signe une lettre pour notre cher président.
Cher Manu, tu as déclaré il y a quelque temps qu'il n'était pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Eh bien, pour une fois que tu dis quelque chose de vrai, on a commencé l'année avec une de tes idées formidables, celle de détruire le monde de la recherche. Alors évidemment, nous, les futurs chercheurs, on a essayé de lutter. On a fait grève et même nos profs de droite l'ont fait. Mais malheureusement, ce virus, putain de virus, comme dira Renaud, est arrivé en France. Au début, personne ne pensait qu'il était si violent. Même nous, au studio, on se disait « Ah, c'est bon, on va pas arrêter de se faire la vie sur un petit virus !» Puis, les premiers morts sont arrivés, et avec elles, la saturation de l'hôpital, que tu avais préalablement détruit. C'est alors que tu nous as sorti une idée révolutionnaire à tes yeux, le confinement. Tu as fermé nos bars, nos facs, nos boulots, et surtout, tu nous as dit de rester chez nous. Alors nous, bons soldats, on a fait ce que t'as dit. Plus de bars? Tant pis, on va faire des apéros à distance. Plus de facs? Eh ben, on va essayer de suivre les cours à distance. Plus de boulot? Eh ben, on mangera de l'eau. De toute manière, il n'y avait plus de pas dans les supermarchés. Il devait durer 2 semaines, mais tu as décidé qu'il durerait plusieurs longs mois pendant lesquels on pétait les plombs. Car oui, tu l'as toi-même vu, si on a réussi à passer la première vague, c'était au prix de notre santé mentale. Le stress qu'on ne pouvait pas évacuer, l'angoisse des examens, la déprime de ne plus voir personne, la peur de ne pas pouvoir finir le mois. Mais on a essayé de se serrer les coudes, de faire des blagues pour oublier notre solitude. On a dansé dans notre salon, chanté comme des casseroles pour faire rire nos amis. Et puis surtout, ce qui nous a fait tenir, c'était l'assurance qu'on ne vivrait plus jamais ça. Que c'était une exception dans nos vies. Et puis, est arrivée la seconde vague. Et là, mon vieux, on a commencé à déprimer avant le reconfinement. Tu nous as d'abord fermé les bars, aux grandes dames des poivrons que nous sommes. Puis tu nous as mis les cours alternés, ce qui a déréglé totalement notre rythme. Puis tu as fini de nous achever par le reconfinement. Et là, l'espoir était mort. Car même si on a maintenant une date de fin et que l'on sait qu'on pourra fêter Noël, mais pas avec qui, le simple fait que le reconfinement existe, alors que tu nous as dit qu'il n'y en aurait plus jamais, nous plonge dans une déprime digne d'un lecteur assidu de Schopenhauer. Alors, ouais, on va continuer encore à essayer de se serrer les coudes. Même si, bon, il y a moins d'entrain dans nos danses, qu'on fait un peu semblant, au fond, d'être heureux, et d'avoir envie de faire des blagues. Car, bon, au fond, il n'en reste que ça, Manu, l'humour. Tu ne l'as pas encore enlevé. Ok, on peut plus filmer nos potes quand ils sont pétés la gueule par des flics. Mais on peut en rire. Ok, on n'a plus vraiment le droit de sortir. Mais c'est bon, on peut en rire. Ok, on peut plus aller au ciné, ni même à la bibliothèque. Mais ça va, on peut en rire. Enfin, Manu, tu viens d'annoncer qu'on pouvait réouvrir les commerces non essentiels, comme les librairies. Car oui, hein, tu pensais que lire des livres, c'était pas essentiel. Mais que bon, acheter le dernier des odorisants, c'était essentiel. Mais tu as laissé nos facs fermés jusqu'en février, sauf pour nos partiels, car bon, hein, qui a besoin d'aller en cours pour réussir ses partiels? Mais il nous reste une solution implacable. La musique républicaine par excellence, la Marseillaise. Car oui, c'est ça la véritable réponse que tu nous apportes. Tu as un problème avec le racisme? Allez, chante la Marseillaise. Les flics te tapent dessus? Chante la Marseillaise. Tu peux pas suivre les cours? Eh ben révise avec la Marseillaise. Tu n'as plus d'argent pour acheter des pâtes? Mais mange la Marseillaise. Car au fond, hein, il n'y a que ça pour nourrir les jeunes, selon toi. Notre hymne national guerrier, mais appelant à virer la noblesse et les rois non légitimes au pouvoir. Alors, ne t'étonne pas si un jour on prend les paroles au pied de la lettre et qu'on vient te chercher. Alors Manu, les étudiants qui n'ont pas d'argent te saluent. Ceux qui ne peuvent pas suivre les cours en ligne te saluent. Les gens qui découvrent l'université te saluent. Ceux qui tombent en dépression à cause de toi te saluent. Et enfin, moi, bloqué dans mon petit appartement, entre deux bières pour tenir, je te salue. J'espère sincèrement que tu auras un jour la conscience de ce qu'avoir 20 ans veut dire aujourd'hui. Et que tu comprendras que, au fond, tes belles formules, tes belles chansons, on s'en moque. Veuillez croire, monsieur le président Manu, à toutes mes salutations non républicaines. Signé un étudiant de 20 ans pour qui ça n'a jamais été facile.
Merci Nico pour ton témoignage, on espère que tu seras entendu. I Can Say de June Lodge sur Radio Campus Paris. On enchaîne tout de suite.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Il est 19h passé de plusieurs minutes et Jusqu'à nouvel ordre continue. Nous rentrons dans notre grand sujet dédié à la mobilisation climatique et plus précisément à la question de savoir si les mobilisations récentes vont mener à un véritable droit climatique. C'est Nati de la rédaction de Radio Campus Paris qui reçoit Théophile Keïta et Yann Roubieux-Dupont de l'association Notre Affaire à tous. C'est à vous.
Entre 2019 et 2020, la question climatique a été sous le feu des projecteurs, que ce soit à travers l'intervention de personnalités comme Greta Thunberg ou de catastrophes naturelles. On peut penser aux incendies en Australie, les feux de forêt en Amazonie ou plus récemment les inondations dans le sud-est de la France. Si les discours politiques sur l'urgence climatique sont bien existants, le changement ne va pas assez vite. Pire, certains pays, dont la France, ne respectent tout simplement pas leur engagement pris lors des accords internationaux. Après tout, qui peut forcer les États à agir? La réponse est simple, vous et moi. Alors je perçois déjà votre regard interrogateur et un peu désabusé, laissez-moi vous expliquer. Plusieurs initiatives citoyennes à travers le monde ont assigné en justice leur pays pour que ces derniers prennent leurs responsabilités face au changement climatique. Et oui, le droit se révèle un outil précieux dans la lutte pour le climat et la protection des générations à venir. On en parle avec Yann Roubieux-Dupont, scientifique du climat et conseiller sur les questions de l'engagement climatique des pays, et avec Théophile Keïta, élève avocat. Ils sont tous les deux bénévoles à l'association Notre Affaire à tous, qui porte l'affaire du siècle. Pour les auditeurs et les auditrices qui nous découvrent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur l'affaire du siècle?
Alors, l'affaire du siècle, c'est, pour revenir rapidement, c'est un recours en justice qui a été introduit devant le tribunal administratif de Paris en décembre 2018 et c'est un des premiers contentieux climatiques français. C'est-à-dire que quatre associations, Notre Affaire à tous, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme, et Greenpeace ont attaqué l'État français au motif qu'ils ne respectaient pas les engagements de lutte contre le changement climatique qui étaient inscrits dans les lois programmatiques qu'il avait développées. Et ensemble avec ce recours qui a été déposé, initié en décembre, a été joint une pétition. Et c'est vrai que, d'une manière générale, le grand public nous connaît plus pour la pétition qui a été développée avec des youtubeurs, etc., que pour le recours en lui-même. Mais c'est un des premiers recours français avec le recours de Grande Synthe dont on va parler, je pense. Et donc, dans ce recours-là, on demande, entre autres, aux juges administratifs de reconnaître la carence de l'État, c'est-à-dire que l'État a commis une faute en ne permettant pas d'atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique qui s'était fixé. On demande également à l'État de reconnaître ce qu'on appelle une obligation générale de lutte contre le changement climatique. C'est un outil juridique nouveau qu'on a plaidé et on demande également la reconnaissance du préjudice écologique devant le juge administratif. Parce que le préjudice écologique aujourd'hui existe en droit français, mais uniquement dans le code civil et devant le juge judiciaire. Et
alors, avant de parler de où en est l'affaire, je voudrais juste revenir sur un aspect juridique, sur quelle base en fait se fonde ce recours, dans le sens où l'argumentation est basée sur des preuves qui n'existent pas encore, et heureusement, à l'heure actuelle, puisqu'il s'agit de réchauffement climatique. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui bouleverse le principe du droit qui est de fournir des preuves?
Ça n'est pas un recours sans preuve. Parce que quand on fait un recours en carence, on constate que l'État n'a pas rempli ses objectifs. Et donc, la plupart des rapports, on fournit des rapports, et l'ensemble est public d'ailleurs. Donc, on n'arrive pas sans preuve. L'ensemble des rapports sur lesquels on se fonde est public, sont publics. Par exemple, à titre d'exemple, l'État avait un objectif de rénovation des bâtiments. Parce que ce qu'on appelle les passoires énergétiques, c'est-à-dire les bâtiments qui perdent de l'énergie et qui dégagent du CO2, sont une grande source de CO2 en France. Et l'État avait un objectif de mémoire. Il me semble que c'était à partir de 2014 ou de 2016, 500 000 rénovations par an. Les rapports qu'on a eus en 2018 nous montrent qu'on ne faisait même pas 300 000 en 2 ou 3 ans. Donc, on s'est fondé là-dessus pour établir la carence, pour établir le fait que l'État n'avait pas rempli les objectifs qu'il avait fixés. Puisqu'on avait des objectifs qui sont eux quantifiables. Je pense que la question que vous posez, qui est plus générale sur les contentieux climatiques, c'est celle d'attribuer à un État une part d'un phénomène qui est mondial. Et là-dessus, c'est une problématique qui se pose aux contentieux climatiques. Puisque c'est vrai que la causalité en droit fait que si quelqu'un fait un dommage, il doit être réparé, il doit y avoir un lien de causalité plus ou moins direct avec le fait générateur du dommage. Et en matière de changement climatique, comme on parle d'un mouvement qui est quasiment géologique, ça devient plus compliqué, mais peut-être que je peux laisser Yann... nous éclairer sur l'état justement de la science à ce niveau-là.
Yann Robut-Dupont.
Effectivement, sur les histoires de causalité, il y a une première causalité qui est effectivement de relier les impacts destructeurs au changement climatique. Et là, même si la science ne peut pas être conclusive sur une attribution d'un événement climatique, d'un impact particulier au changement climatique, on sait très bien que l'élévation du réchauffement climatique va induire beaucoup de dommages. Et ça, c'est assez bien quantifié. Ça va varier en fonction du type de dommage, mais en tout cas, la notion de changement climatique et de ses impacts est indubitable et complètement acceptée dans la science. Après ça, il y a une autre notion de causalité, c'est effectivement attribuer la causalité du changement climatique aux émissions de gaz à effet de serre provenant de l'activité économique qui est encadrée par l'État. Et là aussi, c'est très clair dans la science que les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 causent le changement climatique et que la plupart du changement climatique que l'on observe la quasi-totalité à l'échelle de temps du siècle dont on parle est d'origine humaine. Donc ces causalités-là, elles sont relativement bien établies. Par contre, ce qui est plus difficile à définir d'un point de vue scientifique, c'est de se dire quelle est la faute de tel ou tel acteur. Combien tel ou tel pays, combien la France en l'occurrence, devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour faire sa part. Et après, il y a évidemment la question de l'articulation de l'argument de manière légale. Est-ce que le juge peut demander au pays de faire sa part de la lutte contre le changement climatique, quand bien même le reste du monde ne fait pas sa part? Et donc, enjoindre à un pays de faire sa part de la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas une garantie de résultat. Cependant, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine logique de la décision du juge de demander à ce que un pays sur lequel il peut s'exprimer fasse sa part, de sorte que si chaque pays faisait sa part, on éviterait le changement climatique. Et ça, c'est ce qui a été décidé dans l'action qui a été assez historique du procès Urgenda contre les Pays-Bas, où le juge a estimé que les Pays-Bas, que le gouvernement des Pays-Bas devait faire au moins le minimum de ce qui pouvait être considéré comme une juste part de la part des Pays-Bas à l'effort mondial de lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est un peu les différentes notions de causalité qu'il y a entre prendre une décision qui n'est pas une décision de réparation, hein. Le but, c'est pas d'avoir des compensations simplement pour le réchauffement climatique, mais d'éviter un changement climatique à venir. Donc, les liens de causalité qu'il y a entre l'action qu'on peut éventuellement demander à un État et les impacts qu'on subirait en l'absence de cette action.
Alors, retour en France avec l'affaire du recours de Grande-Synthe. Donc, Grande-Synthe, c'est une commune en Hauts-de-France dont le maire avait saisi le Conseil d'État en janvier dernier pour inaction climatique. Le Conseil d'État a rendu une décision positive pour la commune il y a quelques jours, qui a été qualifiée d'historique par plusieurs acteurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette décision et notamment sur les changements qu'elle va imposer.
Théophile.
Oui, rapidement, l'affaire Grande Synthe, on la qualifie d'historique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que récemment, le Conseil d'État a émis une décision où il a demandé, c'était une décision d'instruction, donc on est encore à la phase où on récupère des preuves, où il a enjoint l'État d'apporter la preuve que les moyens qu'il a mis en œuvre, ou qu'il met en œuvre les moyens nécessaires, suffisants, pardon, pour atteindre les objectifs qui s'est fixé à horizon 2030. C'est historique et en même temps il faut regarder cette décision avec précaution. C'est historique parce que ce que dit le juge, c'est nous allons contrôler, nous avons besoin de preuves pour contrôler les moyens que vous mettez pour respecter vos engagements. Donc implicitement cela veut dire vous ne pouvez plus prendre d'engagement à horizon 2030 et 2050 de manière légère, puisque maintenant il faudra prouver devant un juge que vos engagements sont suffisants. Pourquoi est-ce qu'il faut quand tout de même rester prudent? Parce que en premier lieu ce n'est qu'une décision d'instruction, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la nature du contrôle du juge. Ça se trouve, le Conseil d'État va se contenter d'un papier du gouvernement disant « Regardez, une série de chiffres, on a mis tout ça en œuvre et ça va suffire. » On ne connaît pas encore l'intensité du contrôle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le Conseil d'État n'a pas tranché. Le Conseil d'État n'a pas tranché, il n'a pas dit si effectivement le gouvernement pouvait être tenu responsable, etc. Mais on peut quand même se réjouir du fait qu'il faille apporter des preuves. Le gouvernement est enjoint d'apporter des preuves, et ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Enfin, avant on n'avait pas encore eu de décision où l'État français devait prouver que les objectifs qu'il mettait dans n'importe quelle politique devaient être prouvés.
Et si je peux ajouter quelque chose, c'est que là, la demande qui a été faite de prouver que les moyens sont suffisants, c'est pour atteindre l'objectif actuel. Or, l'ambition même de l'objectif actuel de la France est insuffisante au regard, par exemple, de l'accord de Paris. Notre étude a évalué que l'engagement de la France aligne avec un réchauffement climatique de 2,6 degrés. Celui de l'Union européenne, qui va probablement être revu à la hausse, c'est-à-dire à être plus ambitieux bientôt, mais son premier engagement ne fait sa part que d'un monde à 3,2 degrés. Et donc, on peut voir que ces engagements, déjà d'une, il faut les tenir, mais il faut aussi augmenter leur ambition en France, en Europe et ailleurs pour qu'on puisse tenir les engagements globaux qu'on a de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.
Est-ce que la situation actuelle avec la crise sanitaire a eu un impact sur les décisions des États?
Effectivement, ça a un impact énorme et ça a plusieurs effets. Il y a un effet, c'est que ça restructure quand même l'économie et ça, on va voir les effets au cours des prochains mois et des prochaines années. Donc, il y a un grand défi de gouvernance, de gestion de l'économie, de planification aussi par l'État. Et justement, toutes les politiques qui divergent d'un État à l'autre, et malheureusement aussi, on l'a vu avec peu de cohérence dans l'Union européenne, vont donner l'occasion aux États de guider entre guillemets la reconstruction de l'économie et en injectant de l'argent public de décider d'investissement vert. Mais ce à quoi il faut faire attention, et ça je pense que c'est aussi justement une question légale, c'est de ne pas considérer qu'il s'agit seulement d'attribuer de l'argent ou des dépenses des mesures climatiques, mais vraiment d'opérer un contrôle climatique à toutes les dépenses publiques, de voir quel est l'impact de toutes les mesures, au-delà de celles qui sont considérées comme vertes, sur le climat. Et tout comme on fait des vérifications que l'argent public n'est pas gâché et que le coût des mesures publiques est toujours bien évalué pour aller au moins cher, il faut aussi faire une évaluation du coût environnemental des différentes dépenses au travers des différents ministères. Et ça, c'est un peu un changement aussi dans la gouvernance. Ça doit être maintenant un facteur qui va influencer les plans de relance. Et On espère au niveau international que l'engagement récent de la Chine à devenir une économie neutre en émission, enfin en émission nulle à horizon 2060 et l'élection de Joe Biden vont pouvoir influencer le reste du monde et laisser aussi l'Europe un peu moins isolée dans les pays développés dans la lutte contre le changement climatique et aussi de voir justement l'Europe prendre ce défi un peu plus au sérieux et de vraiment commencer une vraie transition.
Alors vous avez parlé, Yann Robieu-Dupont, notamment de l'aspect transnational de la question climatique avec la montée en puissance d'acteurs, notamment l'élection de Joe Biden. Est-ce qu'on peut espérer une collaboration entre pays ? Où est-ce que ça en est actuellement ?
Alors, il faut vraiment espérer une collaboration entre pays. C'est vraiment ce qu'on appelle une tragédie des communs, c'est-à-dire qu'un État seul ne peut pas résoudre le problème. Et il faut penser très fort à tous les petits États insulaires et les pays les plus menacés hein, qui se débattent toutes les négociations et hors des négociations, certains pour leur survie vraiment en tant qu'État. Hein, il y a des États qui vont disparaître sous la montée des eaux. Donc oui, c'est vraiment une question transnationale. Aucun pays ne peut résoudre ce problème seul et donc il faut vraiment une collaboration. Et on voit à quel point ça a été dommageable ces dernières années d'avoir les États-Unis, le deuxième plus gros pollueur mondial et évidemment le premier PIB mondial, donc c'est-à-dire qui a la capacité financière, une capacité financière énorme pour financer des solutions au changement climatique. Donc là, c'est très important d'avoir vraiment tous les acteurs qui se mettent à la même page. C'était ce qu'on commençait à avoir comme reconnaissance de prise de conscience mondiale avec l'accord de Paris il y a 5 ans. Donc un alignement des volontés mondiales, une reconnaissance unanime du changement climatique comme problème et un alignement de volonté des États. Mais la question se pose encore de combien chaque État doit contribuer. Et là, d'une part, chaque pays peut se cacher un peu derrière une différente compréhension de ce qu'est l'équité, de ce qu'est la justice climatique. Alors, dans l'accord de Paris, on reconnaît le besoin de reconnaître la responsabilité des États, leur capacité à payer aussi. Je pense que d'un point de vue juridique, on est plutôt familier avec la notion de responsabilité historique et le fait de devoir payer des réparations pour des dommages causés. Or là, comme vous le disiez au début de l'entretien, il ne s'agit pas seulement de dommages avérés, mais de dommages à venir. Et donc, ce n'est pas forcément la même notion de justice qui sera la plus efficace pour traiter des réparations que pour mettre en place une solution viable. Et donc, vraiment, ce besoin de prendre en compte aussi les capacités de financement des différents pays est fondamental. Et ça implique d'avoir de la collaboration. La responsabilité de la France n'est pas seulement de décarboner son économie à horizon 2050 en espérant que l'Inde ou des pays d'Afrique subsaharienne en fassent autant. La France s'est engagée avec les autres pays développés dans l'accord de Paris à mener la bataille contre le changement climatique et à apporter du soutien financier, technologique et de propriété intellectuelle aussi aux autres États. Et donc, c'est vraiment une question de collaboration pour mettre en place des solutions qui vont pas être forcément les mêmes entre chaque pays et qui doivent respecter le droit national.
D'ailleurs, à ce titre, je me permets de rebondir parce que la coopération nécessaire internationale, ça me fait penser à la dernière décision qui est sortie hier de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été saisie par 6 jeunes Portugais. Au motif que le non-respect de leurs obligations climatiques par différents États européens ne respecte pas les droits qui sont protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pourquoi ça m'a fait penser à ça ? Parce que, à deux titres, déjà parce que c'est une autre forme de coopération un peu forcée internationale, un peu forcée parce que c'est une décision de justice, donc après qui va avoir un impact même relatif sur les États. Pourquoi c'est important cette décision ? Parce que normalement, pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut épuiser les voies de recours internes. et ce que les jeunes Portugais n'ont pas fait. Donc tout le monde disait ça ne va jamais marcher. Sauf que la Cour a quand même tout de même accueilli leur requête au motif que si on leur imposait à ces 6 jeunes-là de d'épuiser les voies de recours internes, compte tenu de leur situation d'une certaine précarité, ça serait une charge beaucoup trop lourde. Donc elle a accueilli leur requête et elle leur a demandé des questions, elle leur a posé des questions supplémentaires auxquelles ils devront répondre. Et c'est très intéressant parce que déjà, l'autre motif, c'est que la Cour prend en compte que même si chaque requérant dans chaque État va devant les juridictions nationales, dans sa décision, elle en parle, il ne pourra avoir de décision qu'à l'encontre de l'État, de l'État concerné, de l'État national de la juridiction. Un requérant portugais qui va devant des juridictions portugaises n'aura une décision que contre le Portugal. Pareil en France, etc. etc. alors qu'elle, elle peut... donner une décision à l'encontre de différents États. Et pourquoi ça me fait penser encore à ce que vient de dire Yann? Parce que sur la question de la responsabilité des dommages passés, des dommages futurs, avec surtout la prise de conscience des jeunes, hein, on a des jeunes de 10, 12, 14 ans aux États-Unis hein, qui font des recours de ce genre-là, vient la question des droits des générations futures. Et ça chamboule un peu les conceptions juridiques qu'on peut avoir, en tout cas en Occident, parce que dans des systèmes latins, on est très le droit positif, c'est le droit présent, on prend en compte les dommages présents, et là, il est nécessaire de prendre en compte les dommages que nos actions présentes peuvent avoir aujourd'hui, demain, dans 10 ans et dans 50 ans. Et c'est pour ça que c'est aussi une modification c'est un débat de philosophie juridique hein, quasiment qu'on doit avoir sur ces questions-là, comment est-ce qu'on fait pour prendre mieux en compte les intérêts futurs des jeunes qui vivent aujourd'hui. Et voilà, donc cette décision-là est aussi intéressante sous cet angle.
Ma dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes avec l'affaire du siècle? Vous avez je crois que c'est Théophile Quetta qui nous disait au début de l'entretien qu'elle a commencé en 2018.
Oui, alors l'affaire du siècle, normalement, devrait avoir une audience début de l'année 2021. Nous sommes encore, nous, en première instance, donc on n'a pas eu de décision. Il est possible hein, que le tribunal administratif attendait d'avoir une décision du Conseil d'État dans l'affaire Grande-Synthe pour se prononcer. Donc il est probable que le Conseil d'État se prononce d'abord sur Grande-Synthe et qu'ensuite le tribunal administratif fasse en fonction, puisque les contentieux sont relativement similaires, même s'ils ont leurs différences, notamment sur le préjudice écologique et l'obligation générale de lutte contre le changement climatique. Donc voilà, on en est là. On savait que ça prendrait du temps, puisqu'on a lancé en 2018 et qu'on a à peu près une audience en 2020. L'audience a été reportée plusieurs fois en raison du Covid. On verra bien ce que le tribunal administratif dira. Il est probable que si on perd... Il y en appelle, hein, je dis ça, rien n'est décidé, rien n'est joué, je ne parle pas officiellement avec des infos insider, hein, mais c'est probable qu'on aille en appel, ou que le gouvernement aille en appel, mais le débat va être intéressant puisque on va remettre devant un juge hein, le débat du changement climatique. Aussi, aujourd'hui, c'est une des nouveautés des contentieux climatiques, c'est de récupérer le débat et de le mettre devant un juge. Le gouvernement va devoir y répondre, et ce qui est doublement intéressant, c'est qu'on va y répondre avec des arguments scientifiques.
Oui, si je peux juste ajouter à ça, la question des faits et des manquements est très claire, et donc c'est effectivement facile de trouver des preuves scientifiques pour appuyer ce genre de requête. Ce qui l'est moins, et là où c'est intéressant d'avoir ces discussions aussi engageantes, c'est comment faire pour justement réussir ce défi de réduire ses émissions et d'éviter le changement climatique. Et d'avoir ce débat dans la société, c'est intéressant parce que ça envoie un message aux États, ça envoie un message à la population, ça envoie un message aussi aux entreprises. Hein. Certaines sont aussi visées par des actions en justice. Je pense à Total qui est aussi visée par une action où notre affaire à tous participe. Mais ça pose la question, ça met la pression sur les différents acteurs, ça pose la question des responsabilités de chacun. Et il ne faut pas aussi penser simplement que qu'au-delà du citoyen, tous les acteurs sont réfractaires. Le citoyen a une action à faire, mais il y a beaucoup aussi d'acteurs économiques qui ont envie d'avoir des plans clairs et de pouvoir eux-mêmes faire des actions pour réduire leur impact climatique. Et donc, d'avoir ces discussions sur une base légale et scientifique publique, ça aide tout ce cosmos d'acteurs à planifier leur stratégie climatique.
Et au-delà de la discussion, est-ce que vous pensez que si la décision est positive, il y aura effectivement, ça fera acte dans le droit français?
Oui.
Théophile Quetta.
Je pense que ça fera acte dans le droit français, puisque en droit, on raisonne beaucoup par jurisprudence, surtout en droit administratif, c'est-à-dire que les décisions de justice ont un certain poids, même si elles ne lient pas hein, les tribunaux, c'est-à-dire que, contrairement en Angleterre, hein, où les tribunaux sont liés par les décisions précédentes, en France, on n'est pas lié par les jurisprudences, mais ça reste une création juridique et... ça fera acte déjà parce que on parlera de responsabilité, on parlera du préjudice hein, et de peut-être de ce genre de peut-être aussi si on arrive à obtenir une obligation générale de lutte contre le changement climatique, c'est un outil qui est intéressant. C'est le Conseil d'État qui, s'il nous donne raison, dira que il y a un principe général du droit hein, qui est donc un principe qui a une certaine force juridique dans l'ordre administratif. C'est un principe général qui regarde duquel l'action d'administration doit être évaluée. Et je prends régulièrement cet exemple, mais par exemple, on pourra voir peut-être, éventuellement, si ce principe est reconnu, des projets contestés, des projets industriels contestés au motif que l'État a une obligation de lutte contre le changement climatique et il ne peut pas autoriser tel projet car les émissions qu'il cause sont beaucoup trop fortes. Ça, c'est ce genre de changement qu'on espère obtenir. Mais ça peut obtenir des changements et même d'ailleurs, ça en a déjà obtenu puisque... je ne pense pas que l'ensemble des engagements et des modifications qu'on a depuis 2 ans sont étrangères à ce recours. Je ne dis pas que ce recours a permis de verdir tout l'ensemble des projets de loi relativement hein, qu'on a depuis 2 ans, même si on a des reculs, mais ça a participé hein, à une prise de conscience environnementale qui fait que, par exemple, lorsque le gouvernement a répondu, il a beaucoup répondu avec l'ensemble des mesures qu'il avait prises depuis 2 ans. Donc c'est aussi une façon de montrer que l'influence, elle n'est pas que juridique, elle est aussi politique.
Il y en a plus du coup. Il y a la question de l'influence effectivement sur les émissions au final. Est-ce que gagner au tribunal contre l'État sera suffisant? Et c'est là que je pense que la réponse de Théophile est aussi intéressante, c'est qu'on a une convergence quand même des décisions. La décision dans l'affaire de Grande-Synthe de prouver que les moyens et de prouver que les résultats seront là. Et une demande convergente. Donc, c'est pas seulement d'obtenir que l'État, comme dans l'affaire du siècle, révise à la hausse son engagement de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi une demande de résultats. Et dans le cas des Pays-Bas, il se trouve que donc effectivement, les Pays-Bas, le gouvernement a été condamné à réduire davantage ses émissions de gaz à effet de serre, et le gouvernement a pris cette décision au sérieux. Et à la suite de ça, a passé plusieurs mesures, dont il me semble la réduction de la vitesse sur les autoroutes et d'autres mesures, là où il aurait pu aussi décider d'aller vers plus de combats juridiques en manquant cet objectif et de voir après quelles sont les réparations. Il y a eu quand même une avancée, et je pense notamment dans la discussion, grâce à la discussion autour de cette action en justice et du soutien du peuple, à vraiment enjoindre l'État à respecter cette décision qui serait donc à la fois légale et populaire.
Un grand merci à nos invités, Théophile Keïta et Yann Roubiu-Dupont de l'association Notre Affaire à Tous. et à Nati de la rédaction de Radio Campus pour avoir mené cette interview.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah. Now I believe in what you say, undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be.
Goodbye Stranger de Supertramp. J'espère que la personne à qui je dédie cette chanson se reconnaîtra et que ça lui fera plaisir. Voilà.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Et c'est au tour de Mathilde qui va nous parler de Michael Flynn.
Ce mercredi 25 novembre, Donald Trump a annoncé avoir accordé un pardon présidentiel à Michael Flynn, son ex-conseiller à la sécurité nationale. Cet ancien général de 61 ans était impliqué dans l'affaire du Russiagate menée par Robert Mueller.
Tu as évoqué le Russiagate, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Le Russiagate est une enquête ouverte en septembre 2016 sur la possible collusion entre le gouvernement russe et l'administration Trump dans l'élection américaine qui a porté Donald Trump au pouvoir. La figure de cette affaire, c'est le procureur Robert Mueller. Après des années d'enquête, il est arrivé à la conclusion que même si l'enquête a établi que le gouvernement russe s'est aperçu qu'il tirait profit d'une présidente Trump et a œuvré pour parvenir à ce résultat, et que l'équipe de campagne de Trump s'attendait à bénéficier électoralement d'informations volées et diffusées par le biais d'initiatives russes, cette enquête n'a pas établi que des membres de la campagne de Trump ont conspiré ou se sont coordonnés avec le gouvernement russe dans des activités d'ingérence électorale. Il explique néanmoins qu'il est clair que la Russie a fait preuve d'ingérence systématique au sein de la campagne présidentielle américaine. C'est un ancien militaire qui a servi en Afghanistan et en Irak. Lorsqu'il est nommé par Donald Trump comme conseiller à la sécurité nationale, il a 57 ans et il est l'ancien directeur du renseignement militaire dont il a été mis à pied en 2014. En effet, après 2 ans de service, ses idées, sa brutalité envers ses collègues, le fait qu'il a tendance à déformer les faits selon ses convictions, lui valent d'être démis de ses fonctions. À la suite de cet événement, il fonde avec son fils le Flynn Intel Group, une agence de lobbying politique. Parmi ses clients, on peut compter Donald Trump ou encore le président turc Erdogan. En 2015, il apparaît au dîner de gala en l'honneur de RT, une chaîne de télévision russe à Moscou. Il y apparaît comme proche de Vladimir Poutine et est assis à la même table que lui. Plus tard, en 2017, il entretient une conversation téléphonique avec l'ambassade de Russie aux États-Unis, Sergueï Ivanovitch Kislyak, et c'est à partir de cette conversation que ses problèmes vont commencer.
Et comment cette conversation a pu être source de problèmes ?
Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis existe le Logan Act. Le Logan Act, c'est quoi ? Pour reprendre la définition, c'est une loi votée par le 5e Congrès des États-Unis qui interdit la négociation par des citoyens américains non autorisés avec des gouvernements étrangers. Michael Flynn est suspecté d'avoir négocié avec le gouvernement russe alors qu'il n'était pas encore en fonction et aurait promis d'alléger les sanctions mises en place sous le gouvernement Obama au nom de l'administration Trump.
Quel rôle Michael Flynn a-t-il joué lors de l'enquête ?
À la suite des suspicions concernant son appel, il est démis de ses fonctions. Il passera devant la justice où il reconnaît le 1er décembre 2017 avoir menti au FBI concernant la nature de cet appel. En échange, il obtiendra une réduction de peine. Il va par la suite coopérer avec le procureur Robert Mueller et ne sera jamais inculpé à cause des nombreux rebondissements de l'affaire.
Ce pardon de Donald Trump, dans quel contexte intervient-il ?
Michael Flynn est un proche de Donald Trump. Déjà lors de l'enquête en mai 2017, lors de la révélation de l'implication de Michael Flynn, le président américain avait alors demandé au directeur du FBI, James Comey, d'interrompre l'enquête. Maintenant qu'il a perdu la course à l'élection présidentielle pour 2021, il décide avec ce pardon fait sur Twitter de mettre un terme définitif à son implication dans cette affaire et sa porte-parole Kayleigh McEnany a déclaré que cette grâce met un terme à des poursuites politiques et sans relâche d'un homme innocent.
Quelles ont été les réactions politiques ?
Évidemment, du côté démocrate, les élus sont mécontents. Ils considèrent que ce pardon est un abus de pouvoir pour récompenser ses amis et protéger ceux qui l'ont couvert, comme l'exprime Adam Schiff, président de la commission du renseignement à la Chambre des représentants, ou encore Jerry Nadler, qui préside la commission judiciaire de la Chambre des représentants. En conclusion, un des derniers actes de Donald Trump à la tête des États-Unis reflète ce que ses opposants pensent de sa présidence des 4 dernières années. Avec ce pardon, cette affaire prend au nouveau rebondissement, prend encore une nouvelle tournure, et on ne sait quelle sera la prochaine.
Merci Mathilde pour ta chronique. Jusqu'à nouvel ordre, ça continue juste après ça.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
C'est bientôt la fin de notre émission, mais pas avant avoir écouté la chronique de Mathis et Chloé sur The Queen's Gambit. C'est à eux.
Avez-vous déjà entendu parler de celle qu'on nomme la Queen's Gambit ? Avez-vous déjà murmuré à l'oreille d'un fou pour lui dire d'aller en diagonale ? Avez-vous pensé n'être qu'un simple pion dans un vaste échiquier ?
Au lycée, les plus timides affrontaient dans leur chambre des Russes bien classés, pendant que leurs camarades de classe filaient d'amour en gueule de bois, chaque samedi en soirée. Mais aujourd'hui, les échecs ont connu une ascension fulgurante dans le cœur des binge-watchers. La sortie sur Netflix de la série de Queen's Gambit a eu un effet inattendu cet automne.
Qui aurait pensé un jour trouver sexy un joueur d'échecs ? Des personnages bien habillés au décor rétro-coloré, servis sur un plateau géant, des pièces de théâtre au cœur de la guerre froide, la série change le regard sur un jeu peu médiatisé. Ironie du sort, elle a battu les records d'audience de la plateforme avec plus de 60 millions de vues.
The Queen's Gambit, traduit en français par Le jeu de la dame, traduction surprenante qui ne rend pas service à la série car The Queen's Gambit est un coup d'échec tandis que Le jeu de la dame ne représente rien. Cette série est adaptée du roman de Walter Davis de 1983. Elle est diffusée sur Netflix depuis le 23 octobre 2020. On y suit pendant 7 épisodes Bess Harmon, jeune orpheline élevée en pensionnat. le concierge du pensionnat l'initie aux échecs lorsqu'elle n'a que 6 ans. Et à partir de ce moment-là, son ascension est fulgurante. Elle se fait rapidement adopter par une famille, certes bancale puisque le père finit par partir et la mère s'installe doucement en dépression. Et les échecs font d'abord office d'échappatoire pour la jeune fille. Mais on comprend rapidement son envie de vaincre, son addiction. Les échecs apparaissent alors pour Bess comme une drogue, tout comme les petites pilules vertes, l'alcool ou encore la cigarette qu'elle consomme en grande quantité. L'interprétation d'Anya Taylor-Joy est magistrale. Et si le visage de Bess, le personnage qu'elle incarne, reste impassible, son cœur se noircit peu à peu. Elle est emportée dans un tourbillon, une descente aux enfers interminable.
Si je t'avais parlé d'échecs il y a quelques mois, je m'aurais ri au nez. Aujourd'hui, tu t'imagines déjà avec un grand chapeau blanc, cristallisant l'attention. Les regards émerveillés par ton intelligence ineffable, ton échiquier au centre de l'attention. Les souffles coupés dans des parties haletantes, fascinantes, au-delà des frontières, tu fais la une du journal le plus en vogue. Tu poses, tête inclinée, regard inspiré face aux photographes du monde entier. Sourire de Victor Ancoin, tu t'allonges sur le divan. Tu poses en grand maître avec une de tes pièces maîtresses, symbole de ta suprématie. Tu n'es ni plus ni moins qu'une star de l'échiquier. Tu joues des pièces loin des salles de théâtre, table en bois comme terrain de jeu, loin des plateaux télé. Si la performance physique impressionne, l'intelligence fascine et façonne nos fantasmes. On le sait, on ne sera jamais comme Beth. Génie traumatisé, une face noire pour briller, une face blanche pour sombrer. Avec l'addiction comme seul levier. Mais comme toute célébrité, on peut au moins chercher à lui ressembler. C'est l'effet médiatique, aussi inattendu que puissant. Imaginez, c'est mon histoire. Projeté dans un futur proche, dans une soirée étudiante, incrusté par un ami que je ne connaissais pas tant que ça, je scrute les visages. Évidemment, je ne reconnais personne et personne ne me reconnaît. Je sens ma timidité maladive qui me retrouve en criant que j'aurais dû rester chez moi, dans ma chambre, sur mon fauteuil, dans mes pantoufles, sur mon ordinateur. Alors que je me perdais dans mes pensées, je suis tiré de mon état quasi somatique par deux gars un peu éméchés qui m'appellent. J'ouvre les yeux, aussi grand qu'il me permet, mais lourd de cernes. Je vérifie derrière moi si c'est bien moi qu'on appelle. Et esquisse un « oui, c'est moi, pourquoi ?» Ils ont entendu parler de moi par le gars qui organisait la soirée, et qui leur a dit que j'avais un niveau de grand maître aux échecs. Ils ont trouvé ça cool, alors ils sont venus directement me parler. Bref, j'ai dragué en parlant de ma passion pour les échecs.
Tout le monde s'y est mis, c'est la folie des échecs. Les plateaux d'échecs sont en rupture de stock depuis le confinement, le site du jeu d'échecs en ligne chess.com a planté plusieurs fois face à la déferlante d'adhérents. Les gens parlent de Queen's Gambit à tous les coins de rue, vos amis se mettent à débattre de défense slave ou semi-slave, votre petite cousine décore sa chambre avec des affiches en taille réelle de Bess Harmon, c'est la nouvelle idole. Vous ne comprenez pas ces vidéos YouTube qui font plus de 100 000 vues, dans lesquelles des jeunes femmes portant une perruque rousse affrontent l'intelligence artificielle Bess Harmon. Bess Harmon contre Bess Harmon, comme l'annonce la vidéo. Ce que vous savez en revanche, c'est que vous vous identifiez à Bess Harmon, que ses vêtements à carreaux et son aplomb vous donnent envie. Vous aussi, vous allez peut-être aller essayer de remettre la main sur le vieil échiquier de famille, celui tout poussiéreux et qui traîne depuis plusieurs années dans le grenier de votre grand-père. Et vous aussi, vous allez trouver sa classe.
Et ça nous donne envie d'y jeter un œil. Merci Mathis et Chloé pour cette belle chronique. Jusqu'à Nouvel Ordre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Nati pour son sujet de fond sur l'écologie, à mon Uma co-réalisateur Rhys, dont je ne connais pas encore le nom, à Mathilde, Mathis et Chloé et Nicolas, un autre grand merci pour leur chronique et billets d'humeur, et un dernier merci tout particulier en direction d'Anaïs qui continue à assurer avec brio son travail de coordinatrice malgré le confinement. Tout de suite, c'est un format court sur Radio Campus Paris. Au revoir.